Les jumeaux, chapitre 3. Jouet incessant des ruses de je ne sais quelle puissance, il ne suffisait pas que je fusse déchiré de blessures, il fallait encore que je vécusse avec mes plaies. Mon cœur n'était pas plutôt comblé de souffrances et près de déborder, qu'une main invisible y pratiquait, pour ainsi dire, une incision par où il se désemplissait. Ainsi, à force de souffrir, j'en étais venu à croire que je ne pouvais pas être plus malheureux, et à cette croyance, j'étais résigné. Je n'en devais pas moins acquérir la certitude qu'il n'est pas d'homme si malheureux qu'il ne puisse le devenir davantage. À l'exemple de beaucoup de gens, j'avais jusqu'alors nagé entre le bien et le mal, non parce que j'étais foncièrement vicieux, mais par peur de devenir un saint. Je présumais qu'une fois le pied dans la voie des scrupules, on ne peut plus retourner en arrière et que, d'exigence en exigence, on arrive à une perfection relative qui exclut tout bonheur, sans me douter qu'en cet état on puise un calme qui supplée largement aux joies méprisables qu'on perd, j'étais actuellement résolu à dépouiller le vieil homme, et cela avec d'autant plus d'âpreté que, comparable au maladroit qui casse tout ce qu'il touche, il semblait que je fusse incapable de remuer sans faire mal. J'ajouterai que la disproportion révoltante entre ma faute et le châtiment qu'on m'infligeait m'inspirait des sentiments de victime et me causait une sorte de volupté âcre. Sous l'influence d'une exaltation de martyr, j'éprouvais le besoin impérieux de ne pas justifier à l'avenir même l'apparence d'un reproche. Ma destinée, il est vrai, devait en décider autrement. Toujours est-il que ces dispositions me rendaient la vie de prison supportable. Je fatiguais graduellement la haine de mes compagnons de captivité qui cessaient de prétendre à faire mon éducation et à m'élever jusqu'à eux. Par mon assiduité au travail et ma soumission au despotisme des règlements, j'évitais les punitions et gagnais la bienveillance de mes gardiens. Aux lettres et à l'argent qu'on m'avait adressé ma maîtresse, j'avais opposé inflexiblement le refus et le silence. Elle n'existait plus pour moi. S'il m'eût été possible d'avoir des nouvelles de mon frère et de le savoir heureux, j'eusse joui d'une tranquillité profonde. Mon amour pour mon frère Théodore s'était accru en raison de la vivacité et de la profondeur de mes chagrins. Il était l'unique fil qui m'attachât encore à la vie. Vers la fin de ma détention, mon désir de le voir avait la violence d'une passion irrésistible. J'attendis l'heure de ma délivrance dans un état d'impatience dévorante, et je l'entendis sonner avec une ineffable joie. Interné dans le département du Loiret, après avoir reçu ma feuille de route, au risque d'être puni pour dévier de mon itinéraire, je marchais sans retard vers Paris. Mon dessein n'était pas d'aborder mon frère, je voulais simplement, en passant, me rassasier de sa vue. Je rôdais à la nuit autour de la maison où il demeurait. Le hasard me favorisa. Je le vis bientôt sortir et mon pauvre cœur battit violemment. Combien il m'en coûta de ne pas lui sauter au cou. Je ne me contins que par un effort suprême. Je le suivis avec 1000 précautions. Dès qu'il passait au droit d'un magasin éclairé, je le regardais de tous mes yeux. Il était pâle et amaigri et semblait absorbé dans des pensées tristes. Oh, j'eusse donné de bon cœur les jours qui me restaient à vivre pour connaître le sujet de ses préoccupations. Et tout à coup, il s'arrêta devant la montre d'un marchand d'estampes. Un bec de gaz donnait en plein sur son visage et me permettait de le considérer à ma soif. Oh, ce n'était rien encore. Ses yeux tombèrent sur un objet qui lui causa une émotion puissante, du moins je le jugeais ainsi à la contraction subtile de ses traits et à la persistance de ses regards dans la même direction. Sans pouvoir douter, j'aperçus même deux grosses larmes rouler dans ses yeux et glisser sur sa joue. Remué jusqu'au fond de l'âme, il me fallut savoir sur le champ le secret de ses larmes. Je m'approchai de l'étalage. Je fus suffoqué par un bonheur infini. Toutes mes douleurs s'évanouirent dans cette impression inénarrable. J'acquérais la conviction que ce qui faisait pleurer mon frère était précisément mon souvenir. La gravure qui l'émouvait si profondément représentait deux beaux enfants blonds et bouclés d'une ressemblance merveilleuse. Notre mère l'avait acheté jadis et l'avait accroché au pied de notre lit, si bien que le matin, en nous éveillant, la première chose qui frappait nos yeux était les enfants de cette estampe. Combien de fois, Théodore et moi, n'étions-nous pas restés en contemplation devant ces deux gracieuses figures. Ma jeunesse toute entière était dans cette image. Je me revoyais dans les bras de ma mère et je sentais ses caresses sur ma joue. Oh, je ne fus plus maître de moi. Sans savoir comment, je me trouvais auprès de mon frère. « Théodore !» dis-je d'une voix éteinte. Il se retourna. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Nos deux âmes se confondirent dans une étroite, longue et passionnée. Mon pauvre frère, à force d'être inquiet de moi, ne vivait plus. J'eus le frisson en apprenant qu'il avait fait des démarches pour avoir de mes nouvelles. Chose aussi singulière qu'heureuse, ma sœur Augustine ne lui avait point raconté mon aventure. La peur qu'elle devait avoir des reproches et de la colère de Théodore m'explique aujourd'hui son silence. J'en fus réduite à noyer ma vie dans des fables et à le rassurer sur mon compte au moyen de mensonges que le but innocentait à mes yeux. Il n'avait pas de motif pour être aussi discret. Alors j'entrevis avec transport qu'il marchait rapidement à une complète réhabilitation et qu'il pouvait de nouveau tout espérer de l'avenir. Il était parvenu à rembourser intégralement son parrain. Celui-ci lui rendait sensiblement son estime et son affection. Il exigeait que son filleul recommençât de manger à sa table et de passer les soirées avec sa femme et sa fille. Il était évident qu'il n'avait point abandonné son projet de le marier avec Hortense et de lui donner son établissement en dot. Par malheur, Théodore ne trouvait pas aussi aisément grâce devant sa propre conscience. Le remords de sa faute ne s'affaiblissait que lentement. En outre, ceux des commis qui en avait été témoin, ne manquait jamais par jalousie l'occasion d'y faire allusion et de la lui rappeler. L'un d'eux, entre autres, qui avait été sous-officier dans un régiment de ligne, se conduisait en ennemi impitoyable. Querelleur, fanfaron, bien que réellement brave jusqu'à l'intrépidité, il avait toujours à la bouche quelque épigramme qui tournait à l'insulte. Théodore était impatient d'une telle existence. Il voulait à tout prix imposer silence à ses railleurs et se relever à ses propres yeux en s'exposant avec préméditation à un danger adéquat à une expiation décisive. Mais malgré mon désir de connaître le plan qu'il roulait dans sa tête, il me marqua la volonté de ne pas être présentement plus explicite. En revanche, il me promit de m'écrire. Prétextant les exigences de ma condition d'ouvrier, je lui donnai cette adresse Monsieur Joseph, poste restant à Beaugency. Nous allâmes ensuite chez notre tante Thérèse. La bonne vieille, qui m'avait cru mort, faillit mourir de joie dès qu'elle m'aperçut. Elle me couvrit de caresses et de larmes entremêlées de reproches où éclatait la vivacité de sa tendresse pour moi. Je partis le lendemain pour le lieu de mon internement. J'emportais avec moi une provision de jouissance capable de suffire à bien des jours. Il est d'autant plus malaisé aux malheureux soumis à la surveillance d'ensevelir son passé que l'endroit où il séjourne a moins d'habitants. Trop de gens connaissent son secret. En supposant ceux à qui il a affaire incapables d'une indiscrétion, ses allées et venues périodiques dans les bureaux de la mairie ou de la préfecture finissent toujours par le trahir. Après avoir subi plusieurs fois dans les ateliers la honte d'entendre dire à mes camarades qui ne voulaient pas travailler à côté d'un repris de justice, et celle d'être ignominieusement congédié par des maîtres, je tâchais, en vue de m'épargner ces affronts, à gagner ma vie par un commerce quelconque. Mais j'usais dans le colportage les quelques ressources qui me restaient. Je me fusse fait scrupule en ce moment de m'adresser à Théodore, qui se privait du nécessaire afin d'éteindre au plus tôt ses dettes. À tous mes malheurs, je joignis alors celui de faire la connaissance d'un misérable qui devait apporter sa part d'influence dans mon horrible destinée et me perdre irrévocablement. Cet homme, piémontais d'origine, nommé Ferretti, était un industriel d'une espèce singulière. Il possédait 7 ou 8 orgues de barbarie qu'il louait à ses compatriotes ou à des gens tels que moi. Flairant en quelque sorte ma misère, il s'attabla un jour vis-à-vis de moi dans la salle d'une auberge où je logeais à Beaugency. Trapu, avec un cou de taureau, les membres nerveux d'un Hercule, les cheveux noirs, épais, dans le désordre des rameaux d'un grenadier, de grands yeux durs d'un brillant de billes d'agate, il avait une peau jaune et huileuse, des traits anguleux et, par-dessus cela, un air sournois et méchant qui me le rendait très antipathique. Cependant, la nécessité, plus forte que ma répugnance, me décida à nouer conversation avec lui. Je ne le balançais pas à lui dire que la besogne n'allait pas et que je manquais de travail. Et de son côté, il se hâta de m'offrir un de ses orgues. Tout en buvant, il me donna dans son patois quelques détails sur le métier. Je me couchais en proie à l'indécision. Le lendemain, il me renouvela ses offres. J'acceptai pour m'en repentir aussitôt. Au moment de me livrer son instrument, il exigea mes papiers en garantie. Il pressentit sur le champ le motif de ma confusion et m'insinua que cela ne tirait pas à conséquence. J'en passais par où il voulait. Dès qu'il eut en main la preuve de sa conjecture, un sourire atroce éclaira son visage. « Connu, connu » fit-il. J'en conclus qu'au nombre de ceux à qui il louait des orgues, il en était de non moins infortuné que moi. Quelques semaines plus tard, un soir, à la fin d'une journée de fatigue, le hasard mit un journal sous ma main. Je le parcourus machinalement. Tout à coup, un fait divers remua mes fibres à les briser. Je lus et relus. Une rencontre à l'épée vient d'avoir lieu dans le bois de Vincennes entre les sieurs Théodore F. et Eugène T., tous deux commis chez M. L., marchand de couleurs. Le sieur T. a reçu dans la poitrine une blessure de laquelle il est mort peu d'heures auparavant. La justice informe. Je ne pus dormir de la nuit. Dans la matinée, j'allais à la poste. Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. On me remit une lettre de mon frère. J'eus bientôt le secret de ce duel. Le jour où je quittais Théodore, il préméditait d'exposer sa vie et de tenter le jugement de Dieu. C'est là ce qu'il m'avait caché. Il voulait pouvoir hardiment lever la tête ou mourir. L'ex-fourrier, son haineux ennemi, était connu pour un duelliste non moins habile qu'heureux. Il était constant qu'il avait eu de nombreuses affaires et qu'il s'en était toujours tiré avec bonheur. À une insulte bien caractérisée, mon frère lui avait envoyé des témoins fermes dont il s'était assuré au préalable. Et Théodore m'écrivait, avant la rencontre qui devait avoir lieu à midi, non loin de Saint-Mandé. Il confessait que, sans être lâche, il n'était point libre de terreur et qu'en prévision des résultats présumables de ce duel, il avait passé une nuit horrible. Se sentant incapable de lutter contre l'habileté de son adversaire, il se regardait comme perdu à moins d'un hasard providentiel. Bien qu'il doutât que la veillée d'un homme qu'on doit le lendemain mener à l'échafaud pût être troublé par des tortures aussi poignantes, il eût souhaité que ce supplice volontaire fût plus cruel encore, puisque sa conscience devenait tranquille en raison de ce qu'il souffrait. Et au cas qu'il lui arrivât malheur, il m'embrassait avec passion et me suppliait de lui pardonner. Le journal venait de me donner la deuxième partie du drame. Au rebours de son attente, quand il pensait être tué, il avait tué son adversaire. Mais qu'allait-il en advenir? L'idée seule de le voir à la discrétion de la justice me terrifiait. Je fus 20 fois sur le point de rompre mon banc et de courir à Paris. Je vivais dans une anxiété intolérable. Une lettre de ma tante Thérèse me calma un peu. Théodore avait été blessé assez grièvement à l'épaule. Il était soigné chez son parrain, qui lui témoignait actuellement une affection plus vive encore que dans le principe. Le commerçant avait usé de tout son crédit pour obtenir que son filleul ne fût point inquiété. Il était convenu que Théodore se constituerait prisonnier la veille de l'ouverture des assises. Cependant, mes rapports avec Ferretti devenaient chaque jour plus impossibles. Si j'eusse écouté la colère que soulevait en moi le ressentiment de ces injustices, je me fusse déjà, nombre de fois, disputé et battu avec lui. Il m'avait d'abord loué son instrument à raison de tant par semaine. Il prétendit bientôt être payé à proportion de mes recettes journalières. Par suite de ces nouvelles prétentions, il me restait à peine de quoi vivre. Et il mit le comble à sa mauvaise foi au moyen de comptes d'une révoltante iniquité. Prétextant que j'avais endommagé son instrument, il exigeait tant pour le dégât et tant pour la réparation. Il lui arrivait encore de boire jusqu'à l'ivresse et de me faire solder sa dépense sous condition de m'en tenir compte, ce dont il ne se souvenait jamais le lendemain. Et il ne souffrait même pas qu'on lui rappelât ses manquements odieux. Au premier mot, il vous fermait la bouche par des jurons, des insultes et l'offre de terminer le différend à coups de poing. Mes compagnons tremblaient et courbaient la tête devant ce misérable. Quant à moi, m'avisant que l'heure approchait, où je ne pourrais plus me contenir, je songeais sérieusement à me séparer de lui. La servante de l'auberge où le plus habituellement nous prenions notre gîte était une grosse fille de campagne, honnête et serviable, dont le père était serrurier. Elle me marquait des préférences et passait fréquemment la soirée à causer avec moi. Mon chagrin de connaître Ferretti et mon aversion pour cet homme n'avaient pu lui échapper. Dès qu'elle sut que je savais forger et façonner la grosse serrurerie, elle songea à son père et me dit qu'il pourrait probablement me donner de la besogne. Elle m'apprit bientôt, en effet, que la chose était arrangée. Je ne balançai pas un instant. Je réglais avec Ferretti et lui demandais mes papiers. J'usais d'une infinité de précautions dans la crainte de l'irriter contre moi. Tout en lui confiant que j'étais décidé à changer d'état, je feignis de l'indécision au sujet de ce que j'allais entreprendre et tâchai à lui faire croire que je deviendrais son employé au cas où j'échouerais. Nous nous quittâmes en apparence bons amis. 6 semaines s'écoulèrent. J'étais aussi satisfait de mon nouveau patron que lui l'était de moi. Je ne pensais pas pouvoir être jamais heureux, mais encore espérais-je un repos analogue à celui de la tombe. Qu'on juge de mon désespoir quand un matin, en entrant dans l'atelier, je vis le serrurier venir à moi d'un air embarrassé et me dire « Ah, mon garçon, voici ce que je vous dois. Prenez vos clics et vos claques et allez-vous-en. J'en suis vraiment fâché parce que vous avez du cœur au travail. Mais en définitive, je ne peux pas garder un repris de justice dans ma maison. » Je sortis abîmé sous le poids d'une douleur immense. Je ne tardais pas à savoir d'où venait ce coup. La fille du serrurier, que je rencontrai peu après, m'apprit d'un air désolé que Ferretti avait vu son père. Et cet homme que rien ne pouvait émouvoir, qui faisait le mal pour le mal, m'avait aperçu à la forge en passant et avait résolu froidement de me faire chasser. Cette nouvelle infamie comblait la mesure. La rage m'emplissait l'âme et me jetait en proie à un désir irrésistible de vengeance. Tout entier à ce sentiment, incapable de réflexion, j'allai le soir à l'auberge. J'y trouvai Ferretti attablé devant une bouteille de vin et occupé à faire ses comptes avec deux des pauvres diables qu'il exploitait. À peine entré, « Oh, ce que vous avez fait !» lui dis-je avec fureur et lâche et infâme. Il essaya de jouer l'étonnement, mais dans ses yeux, sur ses lèvres, éclatait une joie de bête fauve qui le trahissait. Je répétais mon premier dire en termes plus énergiques encore. « Ah, ça, tu vas te taire !» me dit-il avec un sourire menaçant. « Oh, vous avez beau être fort !» m'écriai-je en fermant les poings. « Je ne vous crains pas, venez !»« Un tourneuse, mon garçon !» dit Ferretti. Il se leva et ajouta « Suivez-nous, vous autres, venez apprendre comment on corrige les mauvaises têtes !» Accompagnés des deux individus présents, nous nous éloignâmes de la ville. En route, un pressentiment traversa mon âme. J'en étouffai les lueurs sinistres, me disant « Mais qu'ai-je à craindre encore? Comment puis-je être plus malheureux ?» Et de fait, la mort m'eût été douce, à côté de ce que je ressentais. Nous nous arrêtâmes à l'angle d'un sentier désert, bordé d'un côté par un mur, de l'autre par une pente à pic, qui à une profondeur de 100 pieds environ aboutissait à la Loire. La lune nous éclairait en plein. On entendait d'autres bruits que celui du roulement de l'eau au travers des cailloux de la rive. Oh, la lutte dura moins que le plus court récit. Sans dire un mot, nous tombâmes l'un sur l'autre avec une fureur égale des deux côtés. Nos poitrines, sous les coups, ne cessaient pas de rendre des sons mats. La haine dont j'étais animé décuplait mes forces. Ferretti semblait étonné de trouver un aussi terrible adversaire. Il essaya plusieurs fois, mais sans succès, de me jeter à terre ou de me prendre à bras-le-corps. Loin d'avoir raison de moi, comme il y comptait, il comprit au contraire qu'il allait succomber, et qu'humant de rage, il tira sournoisement son couteau de sa poche. Aux clartés de la lune, j'aperçus subitement la lame qui arrivait en droite ligne à ma figure. Je détournai le coup. À cette perfidie nouvelle, je perdis la raison. Je fis deux pas en arrière et m'armai également. J'étais absolument hors de moi-même. Un gouffre de feu ne m'eût point arrêté. « Traître assassin !» m'écriai-je entre deux respirations. « Malheur à toi !» Et je me ruai sur lui. Le combat devint sauvage. Nos visages meurtris ruisselaient de sueur et de sang. L'un et l'autre, libres même de la peur d'être atteints, nous frappions à tort et à travers. Et tout à coup, Ferretti tomba en poussant des vrais rugissements. Se tordant à terre dans les convulsions, il criait de toute la puissance de ses poumons « Au meurtre, hein, au meurtre !» L'écho redisait au loin ce cri formidable. Je remarquai seulement alors que nos témoins n'étaient plus là. Je m'approchai de Ferretti. Il agonisait dans une mare de sang. Je recouvrai la raison. Froid, autant qu'un marbre, plus fort actuellement que le destin qui ne pouvait plus rien contre moi, il ne restait debout en mon âme que cette idée fixe, voir mon frère une dernière fois et connaître son sort. Après cela, ma vie appartiendrait à qui voudrait la prendre. Je m'enfuis donc, mais avec le sang-froid d'un homme maître de lui-même. Calculant que mon signalement ne tarderait pas à être transmis dans toutes les directions, je ne me bornais pas à ne marcher que la nuit. J'évitais encore les routes et les lieux fréquentés. Je me nourrissais de fruits et de racines, et je dormais le jour dans les fourrés ou derrière une haie. Diverses fois, côtoyant des fermes, à l'appel des chiens qui aboyaient contre moi, je fus inquiété par des coups de fusil. Oh, mes forces n'eussent pas réussi à un tel voyage si mon corps n'eût été en quelque sorte électrisé par ma passion fraternelle. À cause des détours et des chemins de traverse que je pris, j'allongeai mon voyage au moins de 30 lieues. Je tombai chez ma tante Thérèse à demi-mort de fatigue. La bonne vieille, quoique j'en eusse, m'ayant pris la tête à deux mains pour me mieux voir, pensa s'évanouir à ma lividité et aux ravages causés dans mes traits. J'endormis ses inquiétudes avec des contes, et elle m'apprit que Théodore devait être jugé le lendemain. Perdu au sein de la foule qui remplissait le local de la cour d'assises, je vis successivement les jurés et les juges s'asseoir à leurs places respectives. Mon frère entra, soutenu d'un côté par son défenseur et de l'autre par son parrain. Il était excessivement pâle et avait un bras en écharpe. Ce procès fut d'un bout à l'autre un véritable triomphe pour lui. Je lus presque aussitôt son acquittement dans les yeux des jurés. Les témoins furent unanimes pour rendre justice à ses sentiments de modération. Il fut constaté que Théodore, d'une force médiocre à l'épée, s'était trouvé vis-à-vis d'une sorte de spadassin, redoutable à cause de son habileté et de son assurance. le parrain de mon frère vint en outre déclarer que la victime avait longtemps persécuté son filleul à l'occasion de bruits qui n'avaient aucun fondement sérieux. Il ajouta qu'il prisait à ce point le caractère, la probité, la conduite, l'intelligence de ce même filleul qui lui destinait sa fille et son établissement. Il ne pensait pas pouvoir trouver un jeune homme plus capable et plus digne de lui succéder. En présence de ces témoignages, le procureur général abandonna l'accusation. Le président fit un court résumé, tout en faveur de Théodore. Le jury délibéra à peine. Il rentra au bout de quelques minutes avec un verdict d'acquittement rendu à l'unanimité. Mon frère, à l'égal d'un héros, fut entouré d'amis et comblé de félicitations. Le visage de son parrain respirait la joie et la fierté. Quant à moi, est-il besoin de le dire, les sanglots me montaient à la gorge, le bonheur m'inondait. Oh, qu'il m'eût été doux de mourir en ce moment! Je retournai au lieu d'où je venais et me livrai aux mains de la justice. Oh, mes aveux rendirent l'instruction facile. Je racontai ma querelle avec Ferretti et comment je l'avais tué. Les témoins qui nous avaient abandonnés au commencement de la lutte ne purent donner aucun renseignement précis. Et pour comble de malheur, on chercha vainement le couteau de Ferretti. Quand on trouva le mien, dans la blessure dont ma victime était morte, le substitut du procureur général avait d'amples matériaux pour un réquisitoire accablant. Fouillant dans mon dossier, il récapitula ma vie et, preuves en main, démontra comment de délit en délit j'étais enfin assis sur le banc des assassins. Mon avocat, quoique homme de talent, ne put rien contre les faits qui marquaient, pour ainsi parler, les étapes de ma vie criminelle. Je n'eus même pas le bénéfice des circonstances atténuantes. Déclaré coupable sur tous les chefs de l'accusation, je fus condamné à la peine de mort. Je crois l'homme né pour souffrir, et il me semble que le bonheur n'existe qu'en vue de masquer les pièges de l'infortune. Mais je doute que parmi les malheureux, il y en ait beaucoup qui puissent aussi légitimement que moi trouver la vie une meurtrie amère. Aussi n'en ai-je pas appelé qu'à contre-cœur, et me suis-je buté opiniâtrement à ne pas signer de recours en grâce. Disputé pour le bagne les tristes jours qui me restent à vivre, eût été ridicule autant que lâche. Loin de là, je mourrais dans un état voisin de l'enthousiasme. On m'a remis une lettre de mon frère, où il m'annonce son mariage et me supplie d'accourir prendre ma part de son bonheur. Il joint 500 francs à sa lettre. En la relisant, je me suis convaincu qu'au jour et à l'heure de mon supplice, Théodore conduira sa fiancée à l'autel. Pour avoir vécu dans un autre milieu, après avoir commis des fautes analogues aux miennes, il a pu se repentir et trouver son pardon où j'ai rencontré l'échafaud. Peu importe, mon frère est heureux, mon Dieu, je n'ai que des actions de grâce à vous rendre. Qu'est-ce que j'ai souffert injustement, soit versé sur sa tête en félicité. À cette heure, sans forfanterie, je l'atteste, il me tarde de voir l'aube de ce jour où je ne serai plus, où je laverai mes souillures dans mon propre sang, où j'irai recommencer une existence nouvelle.